7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, tous sur le terrain, quelle place tient le foot dans votre vie quotidienne? Pas tout quand même, j'espère. Le mondial, en tout cas, affiche des chiffres qui donnent le vertige en somme dépensée, en nombre de spectateurs prévus, aussi bien d'ailleurs dans les stades brésiliens que derrière le poste de télévision ou de radio. Pas de doute, aucun sport au monde ne suscite un tel engouement. Alors on va essayer de comprendre pourquoi avec l'historien du foot, Paul Dietschy. Bonjour Paul Dietschy.
Bonjour.
Vous êtes à Besançon en liaison grâce au studio de France Bleu Besançon. Vous êtes professeur à l'université de Franche-Comté. Vous publiez 800 pages sur l'histoire du foot, rien que cela. Et pour la précédente Coupe du Monde en 2008, vous aviez fait paraître avec un sociologue camerounais le football et l'Afrique. Et puis vous co-animez également le site internet wearefootball.org. Dans le studio à Paris, je suis en compagnie de Wara Charlotte Gomis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sport, Canal+, particulièrement intéressé par le foot,
en
surtout
Afrique.
En ce moment,
ouais,
et en Afrique. Et chez vous, les voisins, on dit quoi? Vive le foot, on dit ras-le-bol le foot, c'est le moment de crier, de chanter votre passion en direct à l'antenne, ou au contraire de nous dire vos agacements, pourquoi pas, hein. L'antenne est libre, alors en tout cas, tous sur le terrain, chez les 7 milliards de voisins, 33 1 84 22 71 71. Bougez-vous, appelez-nous tout de suite. Quelques messages glanés sur les réseaux sociaux. Christy qui est à Brazzaville nous dit, c'est simple, vous mettez un enfant qui apprend à marcher devant un ballon et bien sûr il le poussera avec ses pieds, c'est logique, hein, ceci dit il roule. Et c'est là que repose la popularité de ce sport. Vous êtes d'accord Paul Dietschy sur cette simplicité biblique du ballon, on peut dire ça comme ça?
Alors certains disent même que le premier geste que fait un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est de donner un coup de pied. Donc si on va jusque là, on peut évidemment trouver beaucoup d'interprétations. Ce qui est vrai, c'est que c'est un jeu très simple. Les règles ont été établies donc à partir de 1863 et c'était 14 règles, aujourd'hui 17. Et finalement, tout le monde peut les comprendre. Il y a peu de règles ésotériques, par exemple, comme dans le rugby. Il y a aussi un jeu qui n'est pas trop violent, qui est aussi un peu curieux parce que finalement, on doit jouer avec un membre avec le, que l'on utilise peu, sinon pour marcher.
Oui. C'est vrai.
Et finalement avec lequel on a peu d'habileté, contrairement aux mains. Donc il y a aussi cette curiosité, comment faire avec son pied, ce qu'on peut faire beaucoup mieux avec la main.
Ilia Sanjamena au Tchad nous dit « Le football est un sport élégant. Moi j'aime le foot parce qu'il m'aide à m'évader de mes problèmes. » Ou encore Raymond à Yaoundé au Cameroun, le football est comme une scène théâtrale, on y retrouve tout ce qui meuble notre quotidien, la solidarité, l'adversité, la tactique, la méthode, l'effort, la technique. Ça c'est du message rédigé, hein. Merci Raymond, vous en pensez quoi?
Je pense qu'il y a aussi la sphère sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le foot est un sport simple, certes, mais c'est aussi un sport qui est facile à pratiquer partout dans le monde. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir des équipements très précis.
Ah c'est sûr,
avec
c'est
canette,
moins compliqué que l'équitation, par exemple.
Exactement.
Pas besoin d'un cheval.
Avec une canette, deux manteaux pour faire les buts, tout le monde peut jouer. Et je pense qu'il y a aussi cet impact qui est vraiment très très important. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être dans un pays occidental assez développé. On peut jouer au football partout.
Diakari à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le foot, c'est le prestige, la quête du bien-être, la gloire, l'effort physique, l'endurance, la volonté de gagner et de se faire aussi de l'argent et de la publicité. Alors on en reparlera évidemment de tous ces fantasmes autour de la réussite financière. Innocent à Abidjan également, en Côte d'Ivoire, le foot a été pour beaucoup dans le changement d'état d'esprit qui nous a permis de recoller les liens déchirés avec nos voisins de maison, de village, de quartier, de la même ethnie. Pour ma part, le foot est un sport et un facteur de paix pour les peuples. Ou encore Gabriel en République démocratique du Congo, le football n'est pas mon sport favori. Je me suis efforcée, nous dit Gabriel, d'en devenir amoureux, mais ça n'a toujours pas marché. J'ai fini par comprendre que c'est pas quelque chose que Dieu a mis en moi. L'important pour moi, c'est la musique. Et des fois, ça m'énerve, nous dit Gabriel, d'être avec des gens qui discutent de foot. Intérieurement, j'ai toujours cherché la raison qui me pousse à haïr ce sport. Je ne l'ai jamais trouvé. J'encourage ceux qui l'aiment à l'aimer davantage. Et quant à moi, je reste exclue de cette passion. On sent presque une souffrance chez Gabriel.
Et pourtant, c'est pas une tare. Le football reste un sport, certes mondialement médiatisé, mais c'est pas une tare. Il a le droit de ne pas aimer le foot.
Vous ne jetez pas la pierre à Wara Charlotte à ceux qui n'aiment pas le foot.
J'adore le foot, mais j'accepte que d'autres personnes ne l'aiment pas.
Paul Dietschy, vous, comment universitaire, vous en êtes venu à passer toute votre vie en termes de recherche sur le foot?
Alors, d'abord, c'est en raison de l'évolution de la recherche historique qui s'est intéressée à des objets en apparence plus triviaux, hein, de la vie quotidienne. C'est tout ce qui est aussi du domaine de l'histoire culturelle et de la culture de masse. Ce qui fait qu'à partir des années 80, les historiens ont commencé à s'intéresser au sport parce que constataient aussi que c'était un phénomène important. Personnellement, j'y suis venu par l'Italie parce que j'ai enseigné en Italie et aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais à la fin des années 80, le football était vraiment une passion nationale. Et je me suis dit que pour faire une thèse de doctorat sur l'Italie, le football était une bonne porte d'entrée pour comprendre toutes les arcanes politiques, sociales, économiques de ce pays.
En tout cas, tout le monde vous dit, je suppose, hein, Paul Dietschy, que vous êtes un grand malin quand même. Pour faire une carrière d'universitaire en ne s'occupant que de foot, votre hobby précisément, sans savoir jouer au foot vraiment, non?
Ah si, je sais jouer au foot
oui,
quand même.
Oui, mais je veux dire, bon...
J'ai joué au foot, alors j'ai peut-être moins de passion qu'il y a 20 ans. En revanche, j'ai quand même essuyé un peu les plâtres parce que j'ai commencé à travailler sur le sujet au début des années 90. C'était pas forcément évident auprès de certains collègues, beaucoup plus sérieux, de s'intéresser à cet objet. En même temps, je dois dire que je regarde un peu moins le football maintenant parce que c'est quand même centre de ma profession et j'ai d'autres centres d'intérêt comme la musique, la littérature, etc.
Ouais. Enfin bon, là, en ce moment, avec la coupe, vous êtes coincé. Hein,
c'est une obligation professionnelle.
Là, vous êtes payé pour. C'est ça, obligation professionnelle, c'est bien vu. Je lis un dernier message, celui de Tony à Douala au Cameroun. Le foot est comme une religion à laquelle appartiennent tous les Camerounais, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre et le littoral. On est tous comme un 12e joueur derrière notre équipe, les Lions Indomptables. On a envie de vous entendre, d'entendre votre passion au téléphone. 33 1 84 22 71 71. Quelle place occupe le foot dans votre vie quotidienne? Et même d'ailleurs, si vous n'êtes pas fan de foot, appelez-nous aussi. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Alors ceci dit, Paul Dietschy, à lire les commentaires, on pourrait croire que le foot a toujours existé, alors que c'est un sport qui est finalement assez récent.
Alors, sous sa forme actuelle, c'est récent, mais on joue à des formes de football où on tapait la balle avec le pied, mais on prenait aussi avec la main, dès le Moyen-Âge, par exemple, en Angleterre. Mais le foot moderne, il est codifié, en gros, entre 1863 et 1890. Donc, c'est un phénomène récent.
Mais ce en qui Angleterre est... aussi.
Alors, c'est évidemment, ce sont les Anglais qui ont codifié le foot et qui sont un peu les gardiens de la foi footballistique parce que ce sont eux qui dominent ce qu'on appelle l'International Football Association Board, qui est l'organisation qui détermine les changements dans les lois du jeu. Donc, ce sont eux qui ont gardé toujours cela. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est extraordinaire dans le football, mais c'est ce qui fait ça, c'est que très vite, les règles sont devenues universelles. On peut dire les années 1890-1900, on joue de la même façon au football partout et c'est certainement sa force hein, de s'être imposé très tôt comme le sport global numéro un.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi les Anglais, quand vous nous dites que dès le Moyen-Âge, les Anglais poussaient quelque chose avec le pied, pourquoi eux?
Alors oui, parce que ça aurait pu être aussi les Français qui jouaient la soule, ça aurait pu être bien d'autres peuples sur la planète. Bon, c'est parce que aussi les Anglais ont été l'inventeur du sport, c'est-à-dire une activité physique compétitive qui est réglée par des lois du jeu dans lesquelles la violence est de plus en plus réduite. Et certains, comme le sociologue Norbert Elias, disent que c'est en liaison avec le développement du parlementarisme au XVIIIe siècle que le sport s'est développé. De même qu'on pouvait entrer en compétition pacifiquement dans le domaine politique, on apprenait à le faire par le jeu, et le sport s'est beaucoup développé dans ce qu'on appelait les public schools, les écoles privées britanniques, où on disciplinait les jeunes Anglais par le sport.
Donc plutôt un sport d'élite au départ.
Hein, tout à fait.
Noble, chez les nobles. Dans l'Angleterre de la Révolution industrielle.
Oui, alors disons qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance populaire, mais qui est de plus en plus interdite, parce que justement, elle n'est pas réglée par des règles limitant la violence. Et donc, on interdit les footballs populaires dans les villes vers 1840. En revanche, ça se développe autour de règles multiples dans ces écoles, et tout cela est unifié, en gros, à partir de 1863. C'est d'abord pratiqué par les élites, Mais ensuite, à partir des années 1870-1880, autour de pubs, autour de paroisses, autour d'usines, eh bien, le foot va se développer de manière extrêmement rapide. Et il y a une date très célèbre de ce passage de témoins, c'est la finale de la Coupe d'Angleterre en 1883, lorsque une équipe de prolétaires l'emporte sur une équipe de bourgeois. Enfin, et désormais...
En quelle année, ça vous dites ?
En 1883.
1883, ça est bien à la fin du 19e siècle.
Voilà. Ouais. Et à partir de là, c'est un sport populaire et il y a un peu la même évolution dans tous les pays, finalement. On passe des élites aux classes populaires.
Et c'est à partir de ce moment-là où le sport est généralisé, y compris dans les classes populaires, qu'il y a ce vent de folie, parce que vous racontez dans votre livre la première catastrophe, la première description de l'engouement jusqu'à la folie en avril 1902. C'était à Glasgow, lors d'un match Écosse-Angleterre, effondrement d'une section des tribunes, 27 morts, plus de 500 blessés. On n'arrête même pas le match, d'ailleurs. On continue
non,
à jouer.
On ne l'arrête pas.
c'est un carnage.
Alors, parfois, on ne l'arrête pas aussi parce qu'on veut que ça aille jusqu'au bout et finalement que les autres spectateurs puissent sortir calmement. Mais on voit que dès le début du XXe siècle, c'est un spectacle qui attire 50 000, voire 100 000 spectateurs au Royaume-Uni, qui sont principalement des ouvriers, et c'est en liaison d'ailleurs avec le développement du temps libre, parce que à la fin du 19e siècle, a été instauré ce qu'on appelait le samedi anglais, c'est-à-dire la journée de travail s'arrêtait le samedi à 13h, et donc l'après-midi était libre. Et ce qui a permis le développement des championnats de football en Angleterre, en Écosse, vous voyez, les ouvriers sortent à 13h de l'usine, ils peuvent à 15h aller voir leur équipe jouer, si bien que c'est un engouement tout à fait extraordinaire aussi, parce que le football permet aussi de recréer des identités, des communautés, dans des villes qui ont augmenté en population de manière extrêmement rapide. Donc ce sont des lieux finalement où les gens retrouvent de la solidarité, de la communauté, et c'est encore ce qui fait la force du football.
L'urbanisation, un minimum de temps libre.
Et est-ce que cet engouement était le même en France ?
Alors en France, c'est beaucoup plus tardif, parce que en France, d'abord, il y a une culture sportive qui est multiple. C'est le vélo d'abord, qui est l'engouement en 1914. C'est ce qui fait que la France, c'est un peu une exception sur le plan footballistique. C'est un pays de passion moyenne, où le football, en gros, à partir de 1920, est le premier sport pratiqué. Mais c'est pas considéré comme le sport national qui incarnerait finalement l'identité des Français. Mmh. Et ce n'est que... Le véritable engouement, c'est quand ? C'est 58, mais c'est surtout les Verts dans les années 70, et puis bien sûr 98.
Donc on va revenir sur les dégradés d'engouement, selon les continents aussi, le continent africain, le Brésil, pourquoi le Brésil centré sur le foot, etc. On va y revenir, bien sûr, vous restez avec nous, Paul Dietschy. 33 1 84 22 71 71, vous nous appelez, on vous rappelle immédiatement pour pas que vous dépensiez des unités, et vous vous exprimez dans l'émission, quelle place occupe le foot dans votre vie quotidienne ? Put your flags up in the sky, and wave them sad. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Yeah. É tudo l'hymne officiel de la Coupe du Monde, Ouara Charlotte Gomis, vous reconnaissez. Une voisine qui est venue Canal Plus nous rendre visite, passionnée de foot. Vous vous souvenez qu'il y a une petite polémique sur cet hymne officiel, là, sur la langue anglaise, puisqu'il y a Jennifer Lopez qui chante, et puis la brésilienne Claudia Leitte, et les Brésiliens qui voulaient pas qu'on chante qu'en anglais, qui voulaient qu'on chante en portugais. Enfin bref, voilà. Ça n'en finissait pas.
Ça n'en finit pas. Et c'est vrai que ce qu'on remarque avec le football et la Coupe du Monde, c'est que c'est pas juste une compétition internationale, c'est aussi la mise en avant d'un pays.
33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez et vous nous parlez du foot dans votre vie quotidienne. On est en ligne avec Landry qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Landry.
Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour les voisins.
Bonjour.
Alors Landry,
bonjour.
Vous êtes un voisin très foot, pas très foot?
Je suis à fond le foot. Vive le foot.
Mais encore.
Je suis à fond dedans, moi. J'ai découvert le foot il y a environ 11 ans.
Combien? 11 ans?
Quand je me suis retrouvé au collège. Mmh. Pardon?
C'est ça, quand vous étiez élève.
Ça fait 11 ans. Mmh. Ouais, quand j'entrais au collège, et je me suis retrouvé dans un environnement où tous mes camarades et même quelques professeurs parlaient le foot. Alors moi aussi, je suis entré dans la danse et puis depuis, je suis à fond dans le foot, voilà.
Et est-ce que vous savez pourquoi? Et pourquoi vous êtes entré dans la danse, comme vous dites si bien?
Ça me serait expliqué, en fait. J'ai pris le pas. Déjà, pour ne pas être en marge des conversations avec les copains et tout. Et puis après, j'ai découvert le truc et c'est magique, quoi.
Et est-ce que vous jouez au foot? Ou vous ne faites qu'en parler?
Je joue au foot. je joue au foot. Non, ça ne me fait pas qu'en parler. Je joue au foot. Je dirais que je suis un joueur du dimanche.
Vous avez une équipe en particulier? Vous jouez dans l'équipe du quartier, l'équipe de la ville, l'équipe même de votre société?
Les copains, on se retrouve. Pas d'équipe, je retrouve les copains et puis on se fait un match, on se fait un match.
Voilà. Et à quelle place vous jouez là?
Je joue en défense, je joue sur le côté gauche.
Restez en ligne avec nous, Landry. On va donner la parole à Olivier, qui est tchadien, qui habite aussi dans la même ville que vous, qui est un voisin à Cotonou, au Bénin. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Emmanuel, et bonjour à tous les voisins.
Bonjour.
Alors, Olivier, vous, côté foot, on dit quoi?
Ah, c'est pas ma tasse de thé, franchement.
Ah ouais? C'est-à-dire?
Alors, oui, je constate que le foot est un divertissement parmi tant d'autres. Au-delà de ce volet de distraction, ça devient délirant et voire pathologique, puisque certains en font carrément une religion. Je peine à voir la valeur ajoutée qu'il apporte par rapport à l'investissement et l'attention qu'on y accorde. Ça fait un moment déjà qu'on nous ressasse inlassablement que jour J moins X, comme s'il n'y avait que le foot dans la vie. Alors qu'il y a des gens qui travaillent durement et non pas le gros salaire à octroyer aux footballeurs. Des milliards ont été investis dans l'organisation de ce rendez-vous mondial. Oui. Alors, à côté, il y a des gens qui crient leur ras-le-bol.
Oui.
Ils vivent dans la précarité.
En somme, si je comprends bien, Olivier, vous ne contestez pas le foot en tant que tel, hein, en tant que sport. Vous contestez plutôt le système qui vous énerve.
Le système et le foot en même temps. Puisque on ne peut pas contester le système sans le foot, puisque c'est le foot qui entraîne le système.
Donc, conclusion, vous ne jouez pas au foot, vous ne regardez pas le foot?
Oh non, je pense pas avoir de temps à perdre pendant 90 minutes.
Bon, Landry, vous avez une minute pour convaincre Olivier. Vous êtes toujours en ligne?
Il faut le convaincre. Il dit, oui, je suis là, je suis toujours là. Il dit, par exemple, qu'il n'y a pas de retombée. Il n'y a pas de retombée pour ceux qui s'investissent dedans et qu'on n'y gagne rien. Moi, je vais juste lui demander de faire un tour à Cotonou. Tu es dans les feux de circulation, il y a des jeunes qui ont imprimé le calendrier de la Coupe du Monde. Qu'ils vendent, c'est à Francfort. Eux, ils gagnent quelque chose à la Coupe du Monde. Depuis quelques jours, on a les promos, vente de télévision, abonnement. Et eux aussi, ils y gagnent. Ces entreprises-là qui font ces promos gagnent. Nous avons les chaînes de télévision qui ont conditionné leur programme à la Coupe du Monde. Et je pense qu'eux aussi, ils ont quelque chose à gagner. À côté de ça, le football, c'est beaucoup plus la passion qu'on partage. C'est pas vraiment quelque chose d'économique qu'on y gagne. Il y a des copains qui me disent ça, mais vous parlez de foot tout le temps, qu'est-ce que vous y gagnez? Mais on y gagne la passion, on gagne la satisfaction. On est content de suivre le foot et de supporter le football, en fait. Mmh. Et rien que ça, il n'y a rien de financier, de fiduciaire, c'est pas une perte de temps.
Ouais, Olivier.
On est content de se consacrer au football.
Olivier, voilà. Qu'est-ce que vous répondez?
Oh, enfin, c'est, C'est une question de passion, mais moi, je n'aime pas ce sport-là. Je trouve que, quoi qu'on fasse, j'ai l'environnement, tout le monde parle de foot. Mais ça, c'est pas mon histoire, puisque je trouve pas quelque chose d'attirant, quelque chose d'intéressant dans tout ça.
Mmh. Et j'ai bon, merci en tout cas de nous avoir appelé, d'avoir l'honnêteté de le reconnaître, Wara Charlotte Gomis.
Alors, si jamais ça peut vous rassurer, je pense que c'est une information qui est vraiment très importante à partager, il faut savoir qu'il y a 10% de tous les joueurs professionnels qui gagnent des sommes mirobolantes. Il ne faut pas oublier que les autres gagnent des sommes très basiques, ouais, comme 2 000, 5 000 euros.
Tout le monde dans le même panier. Allez, on reparle de foot, la place dans votre vie quotidienne, dans 3 minutes après.